Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment 6 heures ?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, à toutes d'abord, hein, puisque nous sommes le mardi 8 mars 2016, ça doit vous rappeler quelque chose. Bonjour en tout cas, merci de vous réveiller avec un autre jour est possible, votre réveil culturel tous les jours de 6h à 6h30 à la radio. Et quand vous voulez, si vous n'êtes pas lève-tôt, en passant par le podcast disponible à la page de l'émission sur franceculture.fr. Depuis hier, Annie Sarthe-Foria, professeure d'histoire, nous raconte Palmyre, son histoire et son présent. Aujourd'hui, on va remonter le cours de l'histoire dans un instant, le second épisode. Et puis aux alentours de 6h15, je serai avec Laurent Nunez et on va parler de Shakespeare, bien sûr, à l'occasion des 400 ans de sa naissance. Tout de suite, tête chercheuse. Retour à Palmyre avec Annie Sarthe-Foria, bonjour.
Bonjour.
Hier, vous nous avez raconté l'état des dégâts dans le Palmyre d'aujourd'hui. S'il fallait maintenant parler de l'histoire de Palmyre pour mieux comprendre l'importance de ce site en Syrie.
Alors, c'est un site qui est occupé certainement depuis très 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 longtemps, puisque des vestiges d'époque préhistorique ont été retrouvés sur le site, mais l'histoire, vraiment la documentation historique sur Palmyre, nous ne la connaissons qu'à partir du 3e millénaire. C'est-à-dire que le nom de Tadmor, qui est le nom araméen de Palmyre, on le trouve gravé sur des tablettes cunéiformes de la vallée du Moyen-Euphrate. On en trouve également en Cappadoce, et donc à ce moment-là, par ces indices, on sait que la cité est déjà occupée par une population qui se livre probablement au commerce. Pourquoi les gens se sont-ils installés là ? Parce qu'il y a une source qui n'est pas forcément une eau potable, mais qui a l'avantage de pouvoir irriguer l'oasis. Et donc, il y a là une possibilité donc de se sédentariser. Et en plus, la situation géographique du site fait que Palmyre se trouve à mi-chemin entre la Méditerranée et la vallée de l'Euphrate et la Mésopotamie. Et c'est ce qui va faire la fortune de Palmyre très rapidement, c'est cette capacité à maîtriser les pistes qui traversent le désert, direction de la Mésopotamie, puis ensuite en direction des ports de la Méditerranée, pour faire le transit de marchandises qui viennent de Chine, qui viennent d'Inde, qui viennent de l'Afrique, qui viennent de l'Arabie heureuse. Et l'un des témoignages très clairs de cette richesse de Palmyre remonte aux années 40 avant notre ère, où là, on sait que le triumvir Marc-Antoine, l'amant de Cléopâtre, qui se trouve en Orient à ce moment-là, vient faire un raid sur Palmyre pour piller. Donc, s'il vient piller, c'est que la ville est riche. Et cette ville de l'époque d'Antoine, elle existe déjà depuis au moins 2 siècles. On l'a retrouvée, cette partie de la ville, qu'on appelle la ville hellénistique, parce qu'on fait remonter ce début, en tout cas les premiers, les plus anciens des monuments de cette partie de la ville au 3e siècle avant notre ère. Mais c'est une ville qu'on ne voyait pas jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle était enfouie sous le sable, mais elle se trouvait au sud de l'agglomération agglomération romaine, dite romaine, dont les ruines étaient visibles. Donc, des fouilles récentes ont été faites par une équipe syro-allemande entre les années 1997 et 2010. Et ces fouilles ont mis au jour des vestiges de maisons avec des stucs, avec des peintures, avec des objets de la vie quotidienne, des objets du commerce, etc., des amphores, bref. Donc, ils montrent que la ville, dès le 3e avant Jésus-Christ, est déjà une ville puissante et importante. Mais cela, si vous voulez, le touriste de base qui allait à Palmyre ne s'en rendait pas compte parce que cette ville n'est plus visible. En revanche, ce qui était visible, c'est la partie de l'époque romaine. Et c'est au tournant de notre ère, au tout début du 1er siècle de notre ère, que les Palmyréniens entreprennent de construire une ville neuve, une ville moderne, à l'opposé de la ville précédente, donc de l'autre côté du lit du Wadi. Et cette construction correspond très certainement à la période où Palmyre est intégrée à l'Empire romain. Auparavant, le Palmyre, l'oasis, est autonome. Alors, je précise bien, ça n'est ni un royaume, ni une principauté, ni rien du tout. C'est un groupement de sédentaires. D'ailleurs, quand on parle d'eux, on parle du peuple des Palmyréniens et on ne parle pas du tout d'un royaume ou de quoi que ce soit. Mais au tournant du 1er siècle, tout début du 1er siècle de notre ère, Rome décide d'annexer cette partie-là de la Syrie, alors qu'elle possède déjà la partie occidentale.
Donc, mais pourquoi donc c'était un enjeu? Déjà, en vous entendant parler, Annie Sartre-Foria, du pillage du Romain Marc-Antoine,
oui.
Bien sûr,
oui,
ça nous rappelle les pillages de Daesh. Donc, oui. On se dit que ce site était déjà emblématique. Emblématique de quoi?
Mais il était déjà riche, parce que, comme je vous l'expliquais, ils ont très vite profité de leur situation géographique pour faire le transit, le trafic de marchandises, des marchandises à forte valeur ajoutée. Parce que les soieries qui arrivent de Chine, les pierres précieuses, les épices qui arrivent d'Inde, les perles qu'on pêche dans le golfe persique, dans l'île autour de l'île de Bahreïn ou du Qatar actuel, l'encens et la myrrhe qui viennent de l'Arabie heureuse, qui viennent du Yémen, enfin de ces endroits-là, ou l'ivoire d'Afrique, tout cela à un coût extrêmement élevé. Et en plus, les Romains prélèvent des taxes très importantes sur ces produits, qui sont des produits de luxe. Et donc, les Palmyréniens se font cette spécialité de les transporter. Parce qu'en fait, les Romains sont incapables d'assumer ce trafic entre le désert et le golfe Persique. Pour deux raisons. D'abord, il faut traverser le désert. Et ça, c'est pas donné à n'importe quel soldat romain de savoir monter à dos de chameau ou de connaître les pistes, de connaître les puits, d'avoir les relations avec les nomades qui ont tendance à vouloir piller la caravane, bon, avec lesquels il faut avoir des relations diplomatiques. Et puis, dès qu'on passe l'Euphrate, dès qu'on traverse l'Euphrate à l'est, on entre dans un empire qui est l'ennemi des Romains. Dans un premier temps, ce sont les Parthes. Dans un deuxième temps, au IIIe siècle, ce seront les Perses. Mais à chaque fois, ce sont des empires qui sont opposés à Rome et qui se disputent, en quelque sorte, la frontière. Donc, les Romains ne peuvent pas pénétrer dans cette zone où ils ne sont pas les bienvenus. Et donc, les Palmyréniens vont servir d'intermédiaires parce que eux, ils savent très bien mener les négociations. Il y a même des Palmyréniens qui sont gouverneurs de provinces, de petites région dans le sud du golfe, dans le golfe Persique. Donc Rome a besoin des Palmyréniens pour assurer ce trafic de marchandises qui vont se vendre très cher à Rome, sur les marchés ou ailleurs.
Alors qui sont les Palmyréniens justement ?
Alors, les Palmyréniens, ce sont des Araméens, ils appartiennent à... Ce sont des au départ peut-être des nomades, mais qui se sont très vite sédentarisés. Ils parlent l'araméen, ils parlent la langue courante qui se parle dans tout l'Orient à ce moment-là.
Ils connaissent le désert comme tous
ils
les Bédouins.
Ils connaissent très bien le désert. Ils sont éleveurs de chameaux, évidemment. Et ils ont, d'ailleurs, le territoire de Palmyre, il ne faut pas l'imaginer comme un désert de dunes de sable comme le Sahara. C'est une steppe plutôt qu'un désert, même si en été c'est particulièrement sec. Mais en hiver, il peut y avoir une pelouse verte dans le désert parce qu'il y pleut. Il y neige aussi à Palmyre. Et quand on va à Palmyre, on allait à Palmyre en janvier ou en février, il y avait des grands lacs autour de l'oasis et de la pelouse verte sur les djebels autour. Donc le territoire de Palmyre s'étendant relativement loin vers les montagnes, vers les djebels, ils pouvaient élever des chevaux, élever des chameaux qu'ils mettaient au pâturage entre deux caravanes.
Et cette cité était déjà connue à l'époque des Romains ?
Ah ben oui, les Romains la connaissent. De toute façon, c'est une cité qui est déjà riche et connue à l'époque hellénistique, donc 3e siècle avant notre ère. Donc quand les Romains arrivent à la fin du 1er siècle avant en Syrie et font annexent la province de Syrie, puis lorsqu'ils décident d'annexer Palmyre plus tard, donc au début du 1er siècle après...
Et pendant ce temps-là, la splendeur de Palmyre est toujours vivace.
Alors Palmyre, non seulement la splendeur est de plus en plus importante, parce qu'il commence dans les années 19... Après, il commence à rénover le temple de Bel. On a des textes, parce que, petite précision, si on connaît assez bien l'histoire de Palmyre à l'époque romaine, c'est qu'on a des quantités d'inscriptions, des centaines d'inscriptions qui sont gravées sur les colonnes, sur les consoles qui émergent des colonnes et sur lesquelles on plaçait des statues.
Et que disent ces inscriptions ?
Alors, elles sont, première caractéristique, elles sont bilingues, c'est-à-dire qu'elles sont toujours en grec et en araméen. Et pendant toute la période, Palmyre va conserver ce bilinguisme, ce qui est une particularité assez étonnante et assez particulière, puisque partout ailleurs, le grec a remplacé les langues locales, sauf à Palmyre, où l'araméen, en général, traduit le texte grec. Donc il y a toujours une inscription bilingue, et même parfois uniquement en araméen quand c'est dans la sphère privée. C'est-à-dire sur les tombeaux, par exemple, on a plus souvent des inscriptions uniquement en araméen que bilingues. Mais ça n'exclut qu'il peut y avoir les deux aussi dans les tombeaux. Et donc, ces gens, on les connaît assez bien grâce à ces centaines d'inscriptions. On a presque 600 inscriptions en grec et on en a plusieurs milliers en araméen. Donc on a une documentation entre, on va dire, le 1er siècle avant et le 7e siècle après, jusqu'à la conquête musulmane. On a une quantité d'inscriptions qui, à partir desquelles on peut reconstituer un certain nombre de connaissances sur la société, sur le commerce, sur la religion, sur les monuments, les constructions, etc.
Parlons de civilisation, de culture et de religion à Palmyre.
Alors, les Palmyréniens sont évidemment des polythéistes, c'est-à-dire qu'il y a plus de 60 dieux qui sont honorés à Palmyre, et des dieux d'origine extrêmement diverse. C'est-à-dire qu'il y a des dieux qui sont originaires de l'oasis même, bon, qui sont des dieux indigènes, on va dire. Ils ont adopté des dieux mésopotamiens, notamment Bel. Alors, à l'origine, c'était Bol, c'était un dieu local, et il s'est assimilé à un dieu mésopotamien, Bel, d'où le nom ensuite de Bel. Et puis, alors, des acolytes divers autour de ce dieu principal, qui est le dieu principal de l'oasis. Ils ont adopté des dieux sémitiques de l'ouest, comme Baal Shamin, par exemple, dieu de la pluie, de l'orage, etc. Ils ont adopté des déesses syriennes, comme des déesses de la frange autochtone des Bédouins, comme Alat, par exemple, qui par la suite va s'assimiler à Athéna, parce qu'elle a un peu les mêmes caractéristiques de déesse guerrière. Mais ils vont aussi adopter des dieux grecs purement et simplement. Par exemple, Héraclès est honoré en tant que tel, tout nu, avec sa peau de lion, sa massue, on le voit représenté.
Est-ce que je peux conclure, Anis Sartouria, que cette cité est une cité cosmopolite, que les marchands, du coup, pouvaient s'installer, qui pouvaient s'installer à Palmyre?
Oui, on a la preuve que d'abord, il y a des gens qui viennent d'Italie, des administrateurs impériaux qui sont à Palmyre, ne serait-ce que les agents du fisc qui viennent prélever les impôts. Il y a des soldats romains à Palmyre, il y a un camp au nord-est du site. Par la suite, il y a une légion qui, au 4e siècle, qui va venir s'installer. Donc, on se croise effectivement à Palmyre un certain nombre de gens d'origines diverses. C'est absolument vrai, oui. C'est cosmopolite à ce sens-là, si vous voulez, oui.
Et comment, pour terminer l'épisode d'aujourd'hui, comment Palmyre va passer sous la coupe des Romains ? C'est par la force
Non, pas du tout. Ouais. Ça c'est apparemment, nous n'avons pas de documents qui nous disent qu'il y ait eu des combats ou quoi que ce soit. Non, je pense qu'en fait, les Palmyréniens ont été très contents d'entrer dans l'Empire romain, parce que ça a accru leur fortune. Parce que du coup, ils ont eu face à eux un empire qui s'ouvrait pour leurs activités commerciales. Donc forcément, non, ils ont été certainement très heureux. Et le fait qu'ils aient construit une ville qui ressemble à d'autres villes du monde romain ou du monde gréco-romain prouve qu'ils ont parfaitement intégré cette civilisation. Et c'est valeurs.
Retour à Palmyre, retour avec un S à la fin au pluriel, et en compagnie d'Annie Sartforia, professeur d'histoire ancienne émérite à l'université d'Artois et auteur de plusieurs ouvrages sur Palmyre. Vous êtes aussi membre du groupe d'experts pour le patrimoine syrien auprès de l'UNESCO. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avec nous toute cette semaine. On se retrouve demain à la même heure pour le troisième épisode, et demain nous parlerons de l'apogée de Palmyre. À demain.
À demain.
Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Et comme tous les mois, nous avons la visite de Laurent Nunez du magazine Marianne, que dis-je, le rédacteur en chef des pages culturelles de l'hebdomadaire populaire. Bonjour Laurent.
Bonjour Toufi.
Alors, on va parler de qui aujourd'hui, ou de quoi ?
On va parler d'un inconnu.
Hein, un illustre inconnu.
Un illustre inconnu, c'est Shakespeare.
Qui revient ?
Oui, qui revient, mais c'est normal parce qu'on fête son anniversaire, parce qu'on commémore sa mort. Mais alors, lorsqu'on dit, vous savez, qu'on fête cette année les 450 ans de la mort de Shakespeare, bah, on dit pas grand-chose de sûr et de certain. Bon, on a bien vérifié, quelqu'un de ce nom est bien mort le 23 avril 1616 à proximité d'Oxford. Mais pour savoir si celui qui est décédé dans l'inattention la plus complète était bien Shakespeare, le dramaturge génial dont on n'a qu'un seul portrait et juste 14 mots écrits de sa main, eh ben ça, c'est autre chose. Alors certains haussent alors les épaules, affirmant que ce qui compte sont ses pièces. D'autres, au contraire, se mettent à sa recherche et pistent toutes les possibilités. C'est qu'il y a, vous vous en doutez, un véritable mystère Shakespeare et une énigme finalement très simple qu'on peut résumer ainsi. À la fin des années 1580, un jeune homme, originaire d'un petit bourg de province, sans fortune, sans relation familiale, sans éducation universitaire, est arrivé à Londres. Et en l'espace de quelques années seulement, il y est devenu le plus grand dramaturge de son temps, voire de tous les temps. Voilà ce qui semble s'être passé. Est-ce que cela est possible ? Eh bien, 450 ans plus tard, on n'en sait toujours rien. Bon, de toute façon, qui prétendrait connaître Shakespeare, c'est-à-dire tout Shakespeare ? Il semble plutôt que chacun ait sa propre image de l'écrivain en fonction de ce qu'il a lu. Vous savez, Shakespeare, ça peut être juste un personnage, parfois juste une phrase. Pour Borges, tiens, Shakespeare était contenu dans Othello et dans cette incroyable révélation « Je ne suis pas ce que je suis ». Pour Freud, l'important, c'était Hamlet. Et sa célèbre tirade, tant que le père de la psychanalyse a longtemps hésité à nommer le complexe d'Oedipe le complexe d'Hamlet. Pour Aragon, revenu du communisme, ce qu'importait, c'est le roi Lear, qui se crève les yeux de désespoir, en hurlant « Ville gelée, gicle de là !» Bah, que voulez-vous, hein, c'est que l'œuvre de Shakespeare est trop vaste, alors chacun la réduit, c'est normal. Il y a même quelques jours, l'ancienne ministre Fleur Pellerin a publié un passage de Richard II sur son compte Facebook. Pour revenir sur son départ forcé du gouvernement, elle a écrit « Ne pense pas que le roi t'a banni, mais que toi, tu as banni le roi. »
Oula.
Oui, voilà. Vous voyez, on trouve de tout à la Samaritaine et dans Shakespeare. On commémore pourtant sa mort, hein, voilà, et il faut bien dire qu'on la commémore comme il se doit.
Et sur France Culture, les 6 et 7 avril, il y aura un week-end spécial Shakespeare avec quelques bonnes surprises, croyez-moi Laurent.
Bon, et des surprises, on en découvrira aussi en librairie, des dizaines de livres sur Shakespeare. Alors, il y aura évidemment ces grandes pièces, hein, qui vont être rééditées en poche, avec souvent un nouvel appareil critique. Mais il y a surtout de très bons essais sur Shakespeare lui-même, et je lâche le morceau tout de suite, il y aura même un texte inédit. Alors, faisons l'inventaire. Il y a deux ovnis, tout d'abord. Les contes de Shakespeare, c'est étrange ça, de Charles et Marie Lambe, qui sont publiés aux éditions Rivage. Et tenez-vous bien, bah, c'est tout simplement Shakespeare raconté aux enfants par un écrivain romantique du 19e siècle et par sa sœur. On découvre ainsi des pièces comme La Tempête, encore Roméo et Juliette ou bien Macbeth, qui sont en fait réécrites pour ceux qui ne pourraient pas encore lire un théâtre, vous savez, si érudit, souvent violent, même déstabilisant. Bref, c'est une sorte de mise en bouche qui ne remplace pas Shakespeare, hein, c'est vraiment pas le but, mais qui donne envie de le lire. Un autre ovni, c'est Le Voyage de Shakespeare, de Léon Daudet, qui republie Grasset et qui raconte le périple imaginaire, tout est imaginaire, vous en doutez bien, entrepris par Shakespeare à l'âge de 20 ans aux Pays-Bas et en Allemagne, jusqu'au château d'Elseneur. Tout est faux, dira-t-on. Bah, évidemment, c'est un roman, vous savez, qui est une manière fictive ou fictionnelle, en fait, de résoudre l'énigme Shakespeare, parce que c'est un livre, en fait, où Daudet réfléchit à l'énigme de la création littéraire. Comment quelqu'un qui n'a pas fait d'études peut écrire en ayant une telle érudition?
Voilà, c'est donc, ça. Déjà, la question est vieille.
Exactement. Oui, c'est ce qu'on appelle un roman de critique, comme on disait à l'époque, hein, voilà, et cela se lit avec plaisir. On continue dans la librairie. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur la vie de Shakespeare et démêler le vrai du faux, eh bien, il y a deux très beaux livres qui viennent de paraître en poche. Il y a une biographie et quelque chose qui s'appelle une anti-biographie. Alors, l'une n'annule pas l'autre, hein, les deux d'ailleurs se complètent. La biographie, eh bien, c'est Will le Magnifique, de Steven Greenblatt, l'un des plus grands spécialistes de Shakespeare, un universitaire que l'on connaît en France plus précisément pour son livre Quattrocento, qui avait obtenu le prix Pulitzer. Ben, Will le Magnifique n'a été que finaliste du prix Pulitzer, si on ose dire, mais c'est tout de même un essai d'une richesse exceptionnelle, notamment pour sa restitution de Londres, et parce qu'il mêle comme personne la vie et les vers de Shakespeare, un peu, vous savez, à la manière de Shakespeare in Love, si vous vous souvenez de ce film de John Madden. Bon, l'antibiographie...
C'est quoi l'antibiographie?
C'est ce qui me plaît, c'est vraiment le titre. C'est le titre de l'essai de Bill Bryson.
Tout ce qu'on a raconté sur Shakespeare est faux, c'est ça?
En fait, il part du principe qu'on ne peut rien raconter sur quelqu'un qu'on connaît si mal, donc il faut tourner autour. Et là, en 200 pages, l'auteur d'Une histoire du monde sans sortir de chez moi parvient à tout dire de Shakespeare avec un humour, justement, qui laisse vraiment pantois. C'était une gageure, mais on y trouvera en vrac des considérations sur l'accent anglais de l'époque, des anecdotes sur les spectateurs puritains qui assiste aux scènes les plus crues, et même des moqueries sur ce que les critiques modernes ont cru comprendre de ces pièces. Vous connaissez la phrase d'Oscar Wilde, « Je me demande si les commentateurs d'Hamlet sont fous ou s'ils se contentent de faire semblant.
Ouais. »
Bon voilà, c'est le même humour qu'utilise Bill Bryson. C'est peut-être la meilleure introduction à Shakespeare et à son œuvre. C'est en tout cas la plus drôle.
Et pour tous ceux qui pensent, Laurent Nunez, que Shakespeare n'était pas Shakespeare, que c'était peut-être même une femme...
Pour tous ceux qui ne sont pas d'accord sur l'identité de l'écrivain.
Ou qui se posent des questions,
Eh bien, il y a encore deux livres qui viennent de paraître et qui vont dans ce sens. Le premier, c'est tout simplement une réédition de Mark Twain, Shakespeare or Not Shakespeare, aux éditions du Castor Astral, qui reprend, c'est ce qu'on appelle la thèse baconienne, c'est-à-dire qui affirme que les œuvres de Shakespeare ont été en fait écrites par l'érudit Francis Bacon. Pas le peintre, celui de quelques siècles plus tôt. Un extrait pour que vous entendiez le ton de l'ouvrage qui est très, très drôle. Est-ce que j'essaye de convaincre quelqu'un que Shakespeare n'a pas écrit les œuvres de Shakespeare? Oh, pour qui me prenez-vous? Serais-je assez stupide après avoir frayé pendant 74 ans avec l'espèce humaine? Je serais peiné d'apprendre que l'on me considère de façon aussi injurieuse, blessante et méprisante que nenni. J'ai bien conscience que quand un esprit, même s'il est le plus brillant qui soit, a béni depuis l'enfance dans une superstition, parvenu à l'âge adulte, il lui est impossible d'examiner de façon sincère, posée et consciencieuse toute preuve ou tout élément susceptible de projeter l'ombre d'un doute sur la validité de ladite superstition. Voilà, belle prétérition, comme disent les professeurs de rhétorique, belle formule qui nie ce qu'elle dit en même temps qu'elle le dit. Voilà, et tout le livre de Mark Twain est du même élan, c'est un régal. Mais si vous pensez que Shakespeare n'était pas Shakespeare, mais qu'il n'était pas non plus Francis Bacon, eh ben... Il y a un nouveau livre qui vient de paraître, une nouvelle enquête, de Lamberto Tassinari, qui est un philosophe italien, et qui publie donc un livre qui s'appelle « John Florio, alias Shakespeare ». Sa thèse est pour le moins originale, c'est que vous savez, on a souvent remarqué l'étrangeté de la langue de Shakespeare. Eh bien, on n'a jamais fait l'hypothèse qu'il pourrait ne pas être anglais.
Oh, quel scandale, vous osez. Qui ose faire ça? Rappelez-moi le nom de cet
Lamberto
italien.
Lamberto Tassinari.
Oh, bah, dis donc.
Voilà. Pour lui, Shakespeare, c'était John Florio, le fils d'un émigré italien, juif converti, prédicateur franciscain puis calviniste, auteur de dictionnaires, polyglotte, traducteur de Montaigne et de Boccace. Alors c'est vrai, on rit, on hausse les épaules, et puis au fur et à mesure qu'on avance dans les 400 pages d'enquête, on se surprend à être parfois d'accord avec l'enquêteur, et puis de plus en plus on hoche la tête. jusqu'à la prochaine enquête, dans 2 ou 3 ans, qui nous livre...
Dans 50 ans, je dirais, pour les 500 ans.
Oui, c'est ça, voilà, qui nous livrera la véritable identité du dramaturge.
Mais s'il fallait retenir les meilleurs livres autour de Shakespeare, Laurent Nunez...
Alors, il y en a un. Il y a un livre dont tout le monde va parler dans les prochaines semaines. C'est un ouvrage qui pourtant ne fait pas 200 pages et qui paraît le 3 mars en librairie. Il s'appelle Hamlet le Vrai.
Enfin.
Oui, voilà, presque. Et il propose, rien de moins, attention, qu'une version inédite du chef-d'œuvre de Shakespeare, retrouvé par un universitaire anglais et traduit par Gérard Mordilla, l'un des papous de France Culture.
Un autre GG, ouais.
Exactement. Bon, alors, tenez-vous bien, Toufik, ce que je vais vous raconter, ça tient presque d'un roman de Umberto Eco. En septembre 2008, à Cambridge, Mordilla, alors venu pour préparer sa série Jésus et l'Islam, diffusée sur Arte dernièrement.
Excellente d'ailleurs, série.
Rencontra dans la cantine du Corpus Christi College un épigraphiste spécialiste de la critique textuelle du Nouveau Testament, Gérard Mortimer Smith. Discussion d'érudits qui tourne autour de l'apôtre Paul, sur Luther, sur les protestants d'Angleterre et puis donc sur Shakespeare. Et là, Mortimer Smith révèle, d'abord vérifie qu'on ne les écoute pas trop, regarde à droite, à gauche, et révèle donc à Mordilla une aventure qui date d'à peine un mois. En visitant les réserves de la bibliothèque d'un monastère, Mortimer Smith avait trouvé au fond d'une armoire dont la porte était brisée un empilement de livres enveloppés et ficelés. Sa curiosité l'emporta, il découvrit des choses inintéressantes, hélas, des vides saints, des missels, des livres d'heures. Le troisième jour, toutefois, il ramassa un ouvrage à la reliure rembourrée, comme matelassé par une protection en parchemin. Bon, il défit cette protection en parchemin et trouva donc plusieurs feuillets de parchemin, de taille et de longueur différentes, raturés, surchargés de corrections. Son œil fut attiré par un nom dans ses notes, Hamlet. Alors il était là, et c'est ce qu'il raconte à Mordilla, il était là tous les parchemins sur la table, et au bout d'une heure de lecture, il dut admettre l'impensable. Il venait de mettre à jour une version inconnue de la pièce de Shakespeare. Et sans rien dire, il s'empara de ses parchemins, les cacha dans sa mallette et de retour chez lui, 3 ou 4 jours plus tard, quand même, il essaya de comprendre ce qu'il avait, il faut bien le dire, dérobé. C'est impensable, il avait devant lui, de la main de Shakespeare lui-même, les rouleaux que recevaient les acteurs pour apprendre le texte. Comme si Shakespeare, à la fin des représentations, explique Mordilla, avait ramassé les rouleaux de tous les acteurs pour conserver le texte intégral de la pièce. Et cette pièce... c'est une sorte de proto-Hamlet, c'est-à-dire de premier Hamlet avant l'heure, antérieure même à la première version que nous connaissions et qui datait de 1603. Une pièce très différente de celle qu'on connaît, où Hamlet n'est ni frêle ni névrosé, mais plutôt vaniteux, d'ailleurs vindicatif. Une pièce où Hamlet, d'ailleurs, ne meurt même pas à la fin, vous vous rendez compte ? Meurt par contre Ophélie toujours, mais pour d'autres raisons que celles que nous connaissons. Bref, Mortimer Smith fit ce jour-là une découverte incroyable et qui aurait pu demeurer dans les annales de la critique shakespearienne, sauf que cette découverte ne sera jamais authentifiée. L'universitaire est mort dans un incendie il y a quelques années, explique Mordilla. Les parchemins sont introuvables, et si notre papou avait eu accès aux photocopies des parchemins pour écrire ce livre, pour le traduire d'ailleurs, il n'existe à présent plus rien pour accréditer cette première version de Hamlet.
Donc vous y croyez, Laurent Nunez ? Pour moi, c'est vraiment une aventure de Tintin, mais pour vous, c'est très tentant.
Oui, c'est l'Umberto Eco fait à tel point qu'on se demande tout de même si c'est pas une blague des papous.
Ouais, ou une idée géniale d'éditeur.
C'est manuscrit trouvé à Saragosse. Bon, voilà,
j'ai trouvé. En tout cas, l'histoire est très belle. Merci beaucoup, Laurent Nunez. On se retrouve bientôt.
Avec plaisir. Au revoir, Toufik.
Si vous voulez réécouter cette chronique de Laurent Nunez, une seule adresse, franceculture.fr, et tout est à votre disposition à la page d'Un autre jour est possible. On parlera bien sûr de Shakespeare longuement et d'une manière très originale en avril, les 7, 8 et 9 avril sur France Culture. Mais j'aurai le temps de vous en parler dans les jours qui viennent. J'espère vous retrouver demain à la même heure. Demain pour la suite de notre série consacrée à Palmyre, en compagnie d'Annie Sarthe-Foria. Et en deuxième partie, je serai avec la comédienne Valérie Dréville. Belle matinée sur France Culture.